Wow, un beau mercredi qui commence. On est le 6 avril. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Félix-Antoine Parent, bonjour.
Salut Anne.
Comment ça va, Félix-Antoine?
Ah, ça va bien, toi-même?
Ça, oui, moi j'aime ça le petit...
Non, ça va bien, ça va bien.
Oui, ça va bien, parle-moi de ça.
À part, vous l'entendez peut-être, là, le nez qui est bouché, ça fait une semaine que j'ai le nez bouché, je ne sais pas ce qui se passe.
Aussitôt quelqu'un, il y a un petit ou le nez bouché, on dit « Ah, COVID! » Mais non, il y a la grippe qui existe aussi, là, tu sais.
Tu sais, j'ai pas d'autre, c'est mon seul symptôme, mais tu sais, quand tu travailles à radio, c'est bien plate d'avoir le nez bouché.
Oui, c'est
parce que
ça.
C'est ton instrument de travail.
Ou la voix qui marche pas.
Non, c'est ça.
C'est nos deux outils.
Ouais. Mais sinon, ça va bien. Puis c'est ça, on est en préparation de l'émission L'heure juste pour ce midi.
Ouais.
On va jaser des sujets assez intéressants. Bon, j'ai un parti pris, c'est toujours des sujets intéressants, mais particulièrement aujourd'hui.
Okay.
Il y a, premièrement, la situation des arbitres dans la région. Ça a été décrié. Il y a un arbitre de la région, Camille Junior, qui est sorti en disant, écoute, ça n'a pas de bon sens. Là, lui, il songe même, ça risque d'être sa dernière saison. Ça fait quasiment 20 ans qu'il fait ça, 15-16 ans.
Pas juste envers lui, mais envers d'autres arbitres aussi.
Ben, c'est ça. Il dit, il y a des jeunes qui rentrent en pleurant dans la chambre des arbitres. Ils se font accoster par les parents. Puis il dit, c'est le même sport. Ça a toujours été un sport où les gens se donnaient, où il y avait de l'action, où on voulait gagner, mais c'était sur la glace. Mm-hmm. Là, c'est que c'est les parents dans les estrades qui vont les invectiver.
Les arbitres d'estrade.
Ouais, c'est ça. T'sais. Puis c'est pas... en tout cas, c'est je pense que c'est pas agréable pour personne. Je peux comprendre. À un moment donné, on rentre dans l'action.
L'esprit sportif, on
veut gagner. Mais là, c'est des jeunes. C'est que ça commence très jeune, tout ça. Puis les arbitres, il dit, c'est dans le point. Ben oui, mais il dit, à un moment donné, il n'y a plus personne qui va vouloir devenir arbitre. Il dit, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, vous allez devoir aller ailleurs pour jouer. Il dit, pas mieux, là. Fait que tu sais, il faut comprendre que c'est pas juste de dire, écoute, je pense que t'as pas mis tes lunettes. Se faire dire des affaires de même tout le temps, puis se faire dire, écoute, je t'attends dehors, peut-être pas m'accrocher au collet, ou, tu sais, toutes les affaires.
L'arbitre, il prend pas pour notre équipe.
Écoute, tu sais, puis il dit, moi, je prends pas pour personne, il dit, je fais ma job.
C'est ça.
Il dit, j'aime bien ça quand Maniwaki gagne, mais je les ferai pas gagner en détournant la réalité.
C'est sûr, dans son cœur, mais il faut qu'il applique les règlements.
Soit impartial.
C'est ça.
Donc, bref, on en a jasé, c'est une entrevue réalisée par Kim Lacaille. Donc, on présente ça. Il y a les conducteurs de chiens de sang aussi. Ça, pour les gens qui connaissent pas, c'est quand on va chasser, il y a toujours moyen d'appeler ces gens-là. Ils arrivent avec leur chien, ils vont pister puis retenter de retrouver l'animal qui est blessé, mais qui n'a pas
été... Qui est dans le bois, on ne peut pas y aller chercher.
Des fois, ça peut prendre 2-3 heures à le retrouver. Des fois, ça peut prendre 24 heures.
Ces chiens-là, c'est leur job.
C'est leur job. Et c'est des gens que ce n'est pas leur emploi premier. C'est souvent une passion, un sideline. Mais il y a un projet pilote au Québec en ce moment qui fait en sorte que les conducteurs de chiens de sang pourraient, là on commence avec 50, pourront abattre l'animal qui est mortellement touché pour abréger ses souffrances. Parce qu'en ce moment, ils n'ont pas le droit de faire ça. Donc, des fois, ils peuvent arriver, trouver l'animal.
Exemple, dans le temps de la chasse, on tire un chevreuil, puis il n'est pas complètement décédé.
C'est ça. Ben, tu peux attendre. Là, en ce moment, des fois, ils attendent 2-3 heures avant que la bête meure. Mais là, c'est de la voir agoniser. Puis il dit, nous autres, on aime ça aller dans le bois, on aime ça aller à la chasse. On n'aime pas ça voir souffrir du gibier comme ça. Donc, il pense que ça pourrait être... Moi, j'en ai parlé avec M. Ferron. Il est vice-président de l'Association des conducteurs de chiens de sang. Il dit, écoute, ça pourrait être bien de...
Ça existe dans le coin ici, ces équipes-là?
Oui. Il y a deux conducteurs de chiens de sang. D'ailleurs, je vais m'entretenir avec l'un d'eux, Martin Payette, de Messine. Puis, c'est ça. C'est un service qui est offert. Puis, ça coûte pas très cher. C'est à peu près 150-200$ dans le top. Mais 200$, là, c'est quand ça peut te prendre une journée retrouver ton animal.
Okay.
Ça coûte pas grand chose. C'est vraiment des gens qui
d'avoir
font ça par passion.
Service. Okay.
Et on va parler aussi avec Roland Mercier. C'est le président du club de l'âge d'or de l'Assomption de Maniwaki. On parle même de peut-être mettre fin aux activités du club. C'est difficile. Ils n'ont pas de salle en ce moment. Là, il y a une salle qui va se construire, qui va commencer à être construite au deuxième étage du centre sportif, mais qui doit être partagée. Là, il se pose des questions. Est-ce qu'on va pouvoir avoir notre matériel, l'entreposer? Parce que là, on paye un endroit pour entreposer. C'est pas viable. Les membres, il y en a qui sont décédés. Il y en a qui animaient des activités, qui ont lâché. Donc là, il faut vraiment essayer de remonter tout le club. Puis je pense que ça va se décider, ce qu'il me disait, lors de la prochaine Assemblée générale, qui aura lieu, on sait pas quand. Ils ont pas de salle. Fait que là, il essaie de voir un petit peu les gens. Donc, c'est pas évident du côté du club de l'âge d'or de Maniwaki. Donc, on fera le point là-dessus ce midi.
Parfait. Les infos, deux hockeyeurs de la région qui vont chausser leurs patins pour la fameuse Coupe Dodge.
Oui, Andrew Tanguay et Diego Diaz de Déléage et de Messine viennent tout juste de se qualifier pour la Coupe Dodge. Dimanche dernier, l'équipe de hockey, les Dragons de l'Outaouais, remportaient possiblement leur dernier match de la saison, mais cette victoire leur a valu une place au tournoi provincial permettant à l'équipe Midget AA de prolonger sa saison. La Coupe Dodge prendra place dans un contexte complexe sportif de Matane dans le Bas-Saint-Laurent, un trajet estimé à près de 9 ans. Que Véronique Roy, la mère d'Andrew, est prête à affronter pour permettre aux jeunes de participer à cette occasion en or. Toutefois, en raison du coût de la vie, Mme Roy lance un appel aux dons, elle qui amasse des fonds afin de financer le voyage des hockeyeurs. Elle souligne qu'avec la situation pandémique, les campagnes de financement n'ont pas été aussi fructueuses qu'à l'habitude.
Les levées de fonds étaient très minimisées, donc étant donné qu'il y a deux jeunes de la Haute-Gatineau, je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire un GoFundMe.
L'objectif est d'amasser 3 000 Véronique Roy énumère les différentes dépenses qui sont nécessaires pour participer au tournoi.
C'est entre 1 500 et 2 000 par jeune, étant donné là, les frais d'hôtel, le transport. Là, c'est à plus de 1 000 km de notre résidence, les repas sur place pour que les jeunes puissent participer à l'activité.
Les matchs de la Coupe Dodge débuteront là, le 14 avril prochain.
Un grand succès pour la première soirée conférence LGBTQ+.
C'est plus de 40 personnes qui ont assisté à cette première soirée organisée par le comité LGBTQ+ de la table de développement social Vallée de la Gatineau. Thomas Morin, un homme transgenre de 30 ans, originaire de la région, a livré un témoignage touchant et rempli d'espoir. C'est le 31 mars dernier, Journée internationale de la visibilité transgenre, que s'est tenue cette conférence. C'est la première fois que Thomas parlait publiquement de cette transformation et de son cheminement. Le voici qui exprime sa satisfaction suite à l'événement.
Je suis super content, pour vrai. Les gens étaient au rendez-vous, les jeunes étaient là aussi. Ils ont eu des questions vraiment intéressantes à me poser. Ça m'a vraiment permis de vraiment m'exprimer puis d'essayer d'aider les gens. On essaie de plus en plus de briser les tabous. Donc, de mon côté, c'est mission réussie.
Thomas a vraiment été d'une générosité sans égale, aucun tabou, répondant à toutes les questions sans aucune retenue. Il a parlé des étapes de sa transition, du long chemin pour arriver à qui il est vraiment. Pour Thomas, il est important de pouvoir faire une différence.
Quand j'ai commencé ma transformation, il y a des gens qui ont été là pour moi, puis c'est important là, de donner au suivant, puis d'aider à ce que, tu sais, comme j'ai dit pendant la conférence, j'aime pas le mot normalité, parce que on n'est pas anormal, mais tu sais, que ça devienne dans la normalité des jeunes, là, qu'on n'aille pas à faire un coming out ou peu importe, qu'on soit juste apprécié comme on est. Là.
Le comité LGBTQ+ de la table de développement social vise à mettre en place des actions inclusives sur le territoire afin de sensibiliser les citoyens et les diriger vers les bons organismes au besoin. Le comité est ouvert à tous. Si vous souhaitez vous impliquer, ben, vous pouvez communiquer avec à l'adresse suivante communication@tdsvg.com. TDSVG comme table de développement social Vallée de la Gatineau.
Exact. Un homme retrouvé sans vie dans la communauté de la Crapide.
Oui, c'est hier matin, en début de journée, que la Sûreté du Québec a confirmé avoir localisé le corps inanimé d'un homme. Il s'agit de Madjoan Poukachiche, 57 ans, qui était porté disparu depuis le 30 mars dernier. Le corps a été repéré par un bénévole à 10 km de la communauté. Une enquête est en cours afin de déterminer la cause exacte du décès. Les premières informations indiquent que l'homme serait entré en collision avec un arbre au volant de sa motoneige. L'agent d'information à la Sûreté du Québec, Marc Tessier, donne plus de précisions.
On a des spécialistes en enquête collision qui sont déjà sur place, donc ils vont faire l'analyse de la scène. Selon les premières informations, le décès aurait été possiblement causé là, suite à une collision avec des arbres dans le secteur. Donc, il y a toujours une enquête en cours là, pour connaître les circonstances exactes du décès de l'homme de 57 ans. Également, une autopsie là, pour être pratiquée pour connaître la cause du décès.
Ce dernier souligne que plusieurs membres de la communauté ont participé aux recherches. Un poste de commandement de la Sûreté du Québec avait été mis en place hier dans la communauté de la Crapide afin de coordonner les recherches. Un hélicoptère et des motoneiges étaient déployés dans le secteur du réservoir Kabonga. La victime a été transportée au centre hospitalier de Mont-Laurier. Des analyses toxicologiques seront effectuées sur le corps de la victime.
Merci bien, Félix-Antoine. À bientôt pour parler du butin de 10 heures.
Bonne